Le journal de la mi-journée avec Anthony Montandon, bonjour.
Bonjour, 150 gens du voyage ont été expulsés de Bienne. La ville a lancé cette procédure à l'encontre d'une communauté qui s'était établie vers la Tissot Arena. Un moyen aussi pour faire comprendre au public qu'une telle mesure n'est pas dans les faits aisée à mettre en place, comme l'explique le directeur de l'action sociale et de la sécurité, Beat Feurer. Les oiseaux ont un nouvel écrin à Bévillard. Le parc ornithologique a récemment été rénové. C'est un retraité qui s'est chargé de redonner vie au lieu. Il nous détaillera sa démarche dans quelques instants. Les Jeux Olympiques démarrent officiellement dans quelques minutes. La cérémonie d'ouverture se tient à 13h, heure suisse. On se penche sur cet événement, mais aussi sur les premiers résultats des Helvètes dans le journal des Jeux Olympiques. C'est une belle journée estivale qui nous attend ce vendredi. Pas un nuage en vue et des températures qui friseront les 30 degrés. Le retour à un temps plus gris et pluvieux est prévu pour ce week-end. Près de 150 gens du voyage ont été expulsés mardi d'un terrain au sud de la Tissot Arena à Bienne. Les autorités municipales leur avaient demandé de quitter ces lieux jusqu'au 30 juin 14h, ce qui n'a pas été respecté. S'en est suivie une longue procédure qui a vu l'intervention de la police et du tribunal régional Jura-Bernois-Seelande. Une procédure détaillée dans un communiqué publié ce matin. Le terrain a finalement été libéré avant exécution de la menace ultime, à savoir le remorquage des véhicules. La ville de Bienne a tenu à expliquer sa démarche en détail, une communication importante selon le conseiller municipal Beat Feurer.
On veut une fois montrer comment ça se déroule, c'est une manière de procéder normale, alors ça c'est la voie juridique qu'il faut prendre, ça prend du temps et je crois que c'est très intéressant de le démontrer une fois comment ça se passe, combien de temps ça prend, parce que souvent dans la population, on a l'impression, moi j'en ai aussi d'ailleurs, oui, qu'il faut juste dire aux gens de voyage, écoutez, quittez, et puis dire à la police, il faut les faire quitter, puis le lendemain c'est fait. Mais ça prend du temps, ça prend quelques pas à prendre jusqu'à ce qu'on arrive au bout. On n'a pas vraiment mené une discussion, on a dès le début fait clair, on a essayé de faire comprendre qu'on veut qu'ils quittent le terrain, et puis il n'y avait pas d'autres discussions à mener. Et puis, ils se mettaient toujours sur leur position qu'ils voulaient rester, même jusqu'au milieu du mois d'août. Mais il faut être clair, hein, ils savent que toutes ces procédures prennent du temps et puis qu'ils peuvent attendre un moment jusqu'à ce qu'ils doivent effectivement quitter.
La répression est une chose, mais les autorités biennoises soutiennent la recherche de solutions pour que les gens du voyage puissent s'installer, mais légalement. Au nord de la Tissot Arena, une autre parcelle est actuellement occupée, mais il s'agit d'un terrain privé. La ville de Bienne rappelle que dans ce genre de cas, c'est au propriétaire d'effectuer les démarches en vue d'une expulsion. Le canton de Berne réorganise ses centres de vaccination. Dès la fin du mois d'août, plusieurs établissements seront intégrés aux hôpitaux. C'est le cas de celui de Tavannes, par exemple, à partir du mois de septembre. Après une brève fermeture, expliquent les autorités. À fin septembre, d'autres centres fermeront leurs portes, comme à Bienne. Le parc ornithologique de Bévillard fait peau neuve. Après des travaux de nettoyage et de désencombrement, le parc accueille de nouveaux canards, coqs, poules, paons ou encore des faisans dorés. Celui qui redonne vie au parc, c'est Pierre-André Cher. Ce retraité s'est proposé pour s'occuper de cet espace vert. Et depuis 2 mois, lui et sa femme, aidés par leurs amis et leur famille, s'activent pour que tout soit fonctionnel pour les animaux. Et ça commence par les habitations des canards.
Ben, il y a déjà toutes les cabanes qui ne correspondent pas à la race de canard qu'on a, parce qu'avant, ils avaient plutôt les petits canards d'ornement. Comme il y a beaucoup de rapaces et qui se fait qu'ils disparaissent, les petits canards, on a décidé de mettre plutôt des canards plus grands, hein, canards domestiques. Et puis, hier, j'ai encore été chercher 2 oies. Là. Les cabanes ne sont pas adaptées à cette grandeur de canard. Avec des petits trous, on ne peut pas mettre une grande baie dedans, ce n'est pas possible. Donc, on démonte les cages, on va regarder, les remettre en état, les nettoyer, les laver, et puis les agrandir, et puis les adapter par rapport aux canards qu'on a maintenant.
La visite du parc se fait principalement depuis l'extérieur, mais si l'un des responsables s'y trouve, il est possible d'y entrer, de faire le tour de l'étang et d'aller voir les volières et ses résidents de plus près. RJB braque les projecteurs cet été sur les jeunes élus de la région. Rencontre aujourd'hui avec Ismaël Moni. Ce conducteur de travaux de 29 ans a été propulsé à l'exécutif de Valbirse il y a 3 ans. Un premier mandat en politique est décroché après un tirage au sort suite à une égalité parfaite avec sa rivale. Il revient sur sa nomination quelque peu rocambolesque.
C'était beaucoup d'excitation, c'était une surprise surtout. En tant que jeune, je me suis dit que je n'avais jamais fait d'expérience politique. Dans la confiance de la population, en tout cas de la population qui a voté, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur d'abord. Puis après, bon, on réfléchit, on se dit que ça va commencer, qu'il faudra travailler, amener des projets, et suivre des dossiers. Et puis c'est excitant surtout.
Cette confiance, vous y attendiez, vous êtes... Tu es déjà quelqu'un quand même d'actif, si on peut dire, dans la vie villageoise, qui avait beaucoup de liens. Ou bien, comment vous expliquez aussi finalement ce soutien populaire ?
Pour plusieurs raisons. C'est vrai que j'ai fait du football au FC Bévillard-Malleret pendant longtemps. Je pense que j'étais quand même un peu connu aussi par le fait que mon papa ait fait de la politique avant moi. Il a été élu aussi au conseil à l'époque à Valbirse. D'être un enfant du village, d'avoir fait plusieurs activités, fait toutes mes écoles là, je pense que ça fait des relations, des contacts et... Voilà.
Et comment se sont passées, même si peut-être ça vous semble déjà lointain, mais ces premières séances à l'exécutif où il faut découvrir le fonctionnement, il faut découvrir les dossiers, cette prise en main, comment elle s'est passée pour vous ?
Assez facilement, parce que je connaissais les membres du conseil qui ont été élus, donc il y a eu un soutien, c'est vrai qu'on a vraiment une bonne équipe, comme on appelle une collégialité qui se passe très bien, donc ça a très bien été. Les dossiers, je connaissais déjà quelques heures de m'être informé, donc mais également dans l'administration, je connaissais beaucoup de monde déjà, donc ça s'est vraiment bien passé. Et voilà.
Le manque d'expérience, si on peut l'appeler comme ça, parce que ça reste un fait que c'était vos tout premiers pas. Est-ce que vous l'avez ressenti quand même à certains moments, ou bien finalement les choses se sont faites naturellement et puis on a vite oublié que vous n'aviez pas forcément déjà fait vos armes, par exemple, du côté du législatif ?
À l'exécutif, on est plus dans la réalisation des projets, d'amener des projets. Je pense que l'expérience que j'ai déjà eue du fait de mon métier m'a quand même aidé pour mes débuts.
Et finalement, tout s'est bien passé, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a quand même des côtés qui sont un peu plus difficiles quand on est à la tête d'un village, des critiques par exemple, ou bien pas forcément, jusqu'ici vous avez plutôt eu les beaux côtés, si on peut dire, de la fonction?
J'ai eu que des bons côtés à voir jusqu'à maintenant. Les critiques, j'aime beaucoup quand il y a des critiques, ça veut dire qu'il y a un débat. J'adore le débat, écouter les avis des autres, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, que ce soit des critiques positives ou négatives, je les accepte, on en discute. Et je n'ai pas d'autres problèmes que ça jusqu'à l'instant.
Par chance.
Alors, on espère que ça continue ainsi. Avant ce premier mandat, est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour la politique, que ce soit au sens large, ou alors au niveau du village, vous aviez aussi pour habitude de suivre ce qui s'y passait au niveau politique ?
Au niveau politique, beaucoup, énormément. Avec la famille, c'est vrai que ça, on a toujours dans la famille beaucoup eu de discussions politiques sur tous les sujets, sur toutes les votations. Et voilà, maintenant, avec les journaux aussi, j'adore lire les journaux, voir ce qui se passe dans les autres villages, dans les autres communes, dans les autres pays également, avec mes voyages. J'adore voir ce qui se passe ailleurs, prendre le bon, laisser le mauvais. Et puis on voit qu'en Suisse, on est pas mal.
Ismaël Moni répondait à Natacha Mengoli. Et vendredi prochain, nous nous intéressons à Lena Franck, 31 ans, conseillère municipale à Bienne.
Vous écoutez RJB, 12h24, on passe au sport et exactement, on va au Japon.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et c'est le grand jour à Tokyo, les Jeux Olympiques démarrent officiellement aujourd'hui au Japon. La cérémonie d'ouverture va commencer à 13h, heure suisse. Ces JO ont été reportés d'une année en raison de la pandémie. Et le coronavirus joue malgré tout toujours les troubles faits entre huis clos et mesures sanitaires drastiques sur place. Notre envoyé spécial à Tokyo, Émilie Momentaler.
Ces Jeux Olympiques attribués en 2013 à Tokyo devaient être les Jeux de la reconstruction. Le pays se remettait alors à peine de la triple catastrophe de mars 2011 à Fukushima, qui avait fait plus de 18 000 morts. Depuis, ces JO ont été surnommés les Jeux les plus chauds de l'histoire, les plus chers ou encore ceux de la pandémie. À l'été 2019, la chaleur et l'humidité de la capitale nippone mettent des athlètes au supplice lors d'épreuves tests. Le CIO force alors le transfert du marathon et des épreuves de marche à Sapporo, au nord du pays. Puis arrive la pandémie de Covid-19 et le 24 mars 2000, l'annonce du report d'une année tombe, une première en temps de paix. Cumulé aux mesures antivirus, cela entraîne un surcoût de 2,3 milliards d'euros, portant le budget officiel à 13 milliards. L'interdiction du public étranger est-elle décrétée en mai dernier, alors que le huis clos est prononcé le 8 juillet. Une décision, là aussi historique, qui résulte de l'état d'urgence prolongé jusqu'au 22 août à Tokyo, en raison de la recrudescence des cas. Quasiment pas de spectateurs, pas de festivités, ni d'acclamations et d'accolades. Des mesures sanitaires drastiques. Ces JO s'annoncent donc très différents des autres.
Et au niveau des chiffres, ces JO vont réunir plus de 11 000 athlètes en provenance de 206 pays. 339 épreuves sont au programme d'ici au 8 août du côté de Tokyo. La cérémonie d'ouverture va donc commencer dans quelques minutes à 13h. Elle n'aura pas le même visage que ce qui était prévu avant l'émergence de la pandémie. Plus simple, plus sobre selon les organisateurs et dans un stade quasiment vide. Les athlètes seront aussi moins nombreux que prévu. La délégation suisse ne sera forte que d'une vingtaine de sportifs sur les 116 en lice au Japon. Les mesures sanitaires sont en cause, mais pas que. Une cérémonie d'ouverture n'est pas forcément la préparation idéale avant un grand rendez-vous. L'entraîneur en chef de la Fédération suisse d'athlétisme, Louis Heyer.
C'est clair, quand on voit les images du défilé des athlètes à la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment le grand moment de la cérémonie, avec quand la torche s'allume, bien entendu. Mais aussi, ce qu'on ne voit pas à la télévision, c'est quelle est la logistique pour ce défilé des athlètes. Et en fait, souvent, les athlètes doivent partir peut-être 6 à 7 heures avant le défilé pour se rendre déjà au stade, doivent attendre des heures et des heures, parfois à l'extérieur, parfois dans des catacombes, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il pleut. Il y a énormément d'attentes. Le défilé, ça dure peut-être 2 heures et demie. Et donc, une fois que les premières nations démarrent, c'est très rythmé aussi pour la télévision, évidemment. Et donc, il faut qu'il n'y ait aucun à-coup. Donc, tout le monde doit se lever au même moment et attendre, attendre, attendre. Et ensuite, une fois que le défilé est terminé, il faut attendre de nouveau pour pouvoir remonter dans des bus. Et c'est des milliers de personnes, donc il y a beaucoup de bouchons, d'attentes. Ensuite, il faut être ramené au village olympique ou alors dans le camp de base. Et donc ça prend, je sais pas, peut-être 12-14 heures avec beaucoup d'attente debout. Et c'est évidemment pas une chose qui est profitable pour la compétition. Et donc il faut se rendre compte que c'est des athlètes qui ont préparé ça maintenant depuis 4 ou 5 ans. Même si la dimension émotionnelle est évidemment très forte, et la symbolique aussi, mais c'est pas, d'un point de vue purement de la performance, c'est pas ce qui est souhaitable.
Peu d'athlètes suisses seront donc présents dans quelques minutes dans le stade olympique pour lancer officiellement ces JO. Ce sera quand même le cas de l'épéiste valaisan Lucas Malcotti.
C'est quand même quelque chose à vivre, donc moi j'ai demandé pour y participer. Étant donné que je tire par l'individuel, oui, pour moi c'est important d'y être, vu que je serai prêt le 30, donc la cérémonie d'ouverture c'est le 23, j'ai quand même quelques jours après pour récupérer si d'un coup on finit tard ou quoi que ce soit.
De quoi vous vous réjouissez par rapport à cette cérémonie?
De l'ambiance qu'il y aura, j'espère. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de spectateurs, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais ouais, et puis de pouvoir défiler pour la Suisse, quoi. C'est quand même quelque chose à vivre.
Départ à 13h pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. La délégation suisse sera emmenée par deux porte-drapeaux, la sprinteuse bernoise Munjinga Kambuji et l'escrimeur balois Max Heinzer. La Suisse qui fait face à une affaire de dopage avant même le début officiel de ses JO. Suisse Olympique a suspendu Karim Hussein ce matin pour 9 mois. Le spécialiste du 400 mètres haies a été testé positif à une substance interdite lors des championnats de Suisse fin juin. Le Turgovien a été rayé du cadre élevé pour ces Jeux. Trois Suisses ont en tout cas déjà lancé leur compétition à Tokyo. Les épreuves d'aviron ont commencé la nuit dernière. Ça s'est bien passé pour Barnabé Delars et Roman Rösli. Le Vaudois et le Lucernois se sont qualifiés pour les demi-finales du 2 de couple. Ils ont pris le deuxième rang de leur série, Barnabé Delars.
Plus ou moins comme prévu. En tout cas, ce qui était prévu, c'est que ce soit serré. Ça, c'était serré. En regardant les listes de départ, je me suis dit « Ah, on a une série difficile » et après j'ai regardé les autres et en fait, je me suis rappelé que c'était les Jeux Olympiques et que tous les bateaux sont vraiment… il n'y a plus que les meilleurs, donc toutes les séries sont dures, toutes les courses vont être dures. On a battu les Irlandais qui ont fait juste deuxième à la Coupe du Monde de Lucerne, les Polonais qui nous ont battus à Sabaudia la dernière Coupe du Monde. On va dire égalité, enfin ils étaient 2 centièmes devant, mais… Donc je pense qu'on a fait un gros pas en avant depuis la saison de Coupe du Monde et maintenant on va encore progresser dans la régate. Franchement c'était une course assez contrôlée on va dire, je pense qu'on en a encore en réserve donc c'est de bon augure.
La Zurichoise Janine Gmelin a aussi franchi victorieusement le cap des séries en aviron. Merci de nous avoir suivis pour ce journal, prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité, c'est à 16h, très belle journée et bon week-end.
Le journal des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et puis on terminera ce journal des JO avec un hop suisse. Et puis hop, le soleil, puisqu'il est avec nous en ce vendredi qui sera le plus beau jour de la semaine, malgré quelques passages nuageux d'altitude, surtout à partir de la fin de l'après-midi et en soirée. Mais bon, rien de bien inquiétant, vous inquiétez pas. Il faudra en profiter, mais par contre, parce qu'il y aura une dégradation qui arrive pour ce samedi. Mais avant de se pencher sur cette dégradation, coup d'œil aux températures du jour qui m'ont flirté avec les 30 degrés un peu partout sur le Zélande. Il fera 28 à Tavannes, Tramelan et Saint-Imier, ou encore 29 autour du lac de Bienne et à Moutier au meilleur de la journée. Samedi, passage nuageux dense dès le début de la matinée. Nous aurons tout de même droit à un intermède relativement bien ensoleillé et chaud en début ou milieu d'après-midi, selon les experts de Météo News. Puis le ciel deviendra de plus en plus menaçant avec des orages d'abord dans le Jura, puis en toute région, orages parfois violents et pouvant s'accompagner de grêles, notamment en Ajoie.